Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, le week-end est là, justement, avant ce fameux week-end. On va parler dans cette émission ce vendredi 24 septembre du PSG Lyon Olympique de Marseille, le podium tant entendu par les fans. Et oui, justement, avec l'accent du Sud. Benzema en route pour le Ballon d'Or, on verra bien. Et oui, ça fait plaisir à pas mal de monde. On a vu que la twittosphère, mais aussi sur les réseaux sociaux, ça s'est beaucoup enjaillé concernant Karim Benzema. On en parlera, c'est promis. Le jeune de Paqueta contre l'Estac. Une attaque contre le beau jeu. Et oui, dans cette, dans le football français aussi, la Ligue 1 BKT, mais aussi la Ligue 2 BKT, excusez-moi, et la Ligue 1 Uber Eats. On reviendra, c'est promis, avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Et que se passe-t-il dans les stades? On est toujours avec cette crise sanitaire, mais les gens sont beaucoup trop énervés. Et oui, on le dit à chaque fois dans cette émission, mais bon. On verra tout cela dans cette émission avec le week-end sport qui nous attend. N'oubliez pas le numéro du standard est le 01 53 48 3000 et nous allons commencer cette émission. C'est parti, go go Time Sport.
Time Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Viknesh. Comment ça va, Viknesh?
Salut Bilal, salut tout le monde. Ça va très bien. On est là, ravi de terminer la semaine avec vous. Hein.
Ben oui,
on a une conceptualité en plus.
Nous aussi, Viknesh. On aura Alison, sans oublier Vivien, excusez-moi. Vivien qui arrive, eh oui. Et aussi Mourad qui est avec nous. Eh oui, comment ça va Mourad?
Ben écoute, ça va très bien. C'était un peu bouché sur la route aujourd'hui.
Oui.
Comme sur la troisième place du classement de la Ligue 1, mais sinon tout... à part ça, tout va bien.
Mais c'est toujours comme ça, le matin, l'après-midi ou même en soirée.
Bon, on est c'est à
ça.
Paris, hein, c'est normal.
C'est vendredi. Allez, on va commencer avec le premier sujet de cette émission.
Bon. Le sujet des sociaux. Le sujet...
Eh oui, ce premier sujet, justement, on en avait parlé avec le PSG, Lyon et aussi Olympique de Marseille. Mais avant cela, allez, avant d'entamer le premier sujet, place au JT Sport de Jason.
Eh oui, bonsoir à tous, on démarre 7 minutes info par la Ligue 1 et Lionel Messi qui sera de nouveau forfait contre Montpellier samedi soir. L'Argentin touché au genou face à l'OL devrait rester en soin et se préserver pour le choc face à Manchester City en Ligue des Champions dans quelques jours. À Paris toujours, Kylian Mbappé élu par la LFP meilleur joueur du mois d'août de Ligue 1 devant Dimitri Payet et Mohamed Bayo grâce notamment à ses 3 buts et 3 passes décisives délivrées lors des 4 premières rencontres. La LFP qui a également condamné les débordements survenus entre Marseille et Angers mercredi soir en Ligue 1, verdict, fermeture de la tribune ultra angevine et interdiction de déplacement des supporters marseillais à compter du 3 octobre prochain et ce jusqu'à nouvel ordre. Des nouvelles aussi d'Olivier Giroud, bien remis de sa blessure au dos, qui devrait effectuer son grand retour dans le groupe de l'AC Milan ce week-end pour le déplacement à la Spezia. Info transfert, Mbaye Niang débarque en tant que joker du côté des Girondins de Bordeaux après s'être libéré de son contrat au Stade Rennais. Le Sénégalais de 26 ans s'engage pour les 2 prochaines saisons. C'est tout pour ce soir, en vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal Nenman et toute l'équipe, et bien sûr un bon week-end sur Beurre FM.
Parfait, mais oui Jason, il est toujours là. Fringant, et eh oui, avec toutes ces infos, Viknesh.
Toujours beaucoup d'informations et c'est très pertinent. En plus, tout le là, il est là chaque fois dans la semaine, c'est bien.
Oui, tout à
ça
fait.
Ça change.
Justement, le premier sujet, on en parlait, ce trio, le Paris Saint-Germain, Lyon, Olympique de Marseille. Et eh oui, c'est peut-être le podium tant attendu par les supporters, mais aussi par le monde du foot, quoi.
Oui.
Alors Mourad,
bah, effectivement,
on était rejoint avec Vivien.
Salut Vivien. Donc je pense que c'est le souhait des supporters. Mais il y a la réalité du terrain. La saison dernière, le PSG était attendu comme finissant champion, ils ne l'ont pas été. L'OL et l'OM n'ont même pas fini sur le podium. Il y a eu d'autres acteurs. Cette année, on a sur le podium, on a Angers, on a Lorient, qui est mon petit chouchou cette saison, et on a Lens. Donc voilà, donc il y a le souhait des supporters et il y a la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a eu différentes stratégies. Il y a des équipes qui n'ont pas recruté et qui sont en train de s'essouffler après la trêve estivale. Et on a des équipes qui ont recruté très tardivement, comme l'Olympique Lyonnais. Et c'est potentiellement en train de porter ses fruits. Ils sont au pied du podium et ça ne laisse présager que de bonnes choses pour l'Olympique Lyonnais. Moi, justement, je tenais à saluer le recrutement de l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est le plus cohérent, même s'il a été un peu tardif, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là avec l'Olympique de Marseille. Ils ont investi que 6 millions d'euros. Ils ont beaucoup vendu. Ils ont recruté de l'expérience. Alors que l'Olympique de Marseille, on est sur 60 millions d'investis, contrairement à ce qu'on nous avait dit qu'on était sur des queues de budget, que le budget était limité, mais on est sur plutôt des paris. On ne sait pas sur le long terme ce que ça va donner. Donc voilà, mais moi j'ai un petit coup. Enfin, je pense que le PSG ira au bout cette saison. Bon, ça, tout le monde.
Ils ont déjà 7 points d'avance.
Ouais, c'est facile pour les Parisiens.
Oui, ça commence bien.
Mais je mettrais bien une petite pièce sur. Pas sur le podium, mais ouais. Dans le top 5, une petite pièce sur le FC Lorient, que j'ai beaucoup aimé.
Alors, Vignesh, ouais.
Ah non,
FC Lorient, selon Mourad.
Mourad, il aime bien les merlus et tout, c'est pour ça qu'il aime bien Lorient.
C'est pas mal.
Mais moi, moi je préfère les aiglons, du coup. Et moi, je mettrais un petit billet sur Nice.
Juste si je peux rebondir sur ce que dit Vignesh, les merlus ont battu les aiglons la semaine dernière.
Tout à fait. C'est pas faux. Mais ça reste à battre, comme diraient certains. Oui. Mais en vrai, oui, parce qu'il y a le PLM cher à Frédéric Antonetti. Mais après, moi, je pense que oui, Marseille commence bien. Ils ont des bons joueurs. Ça reste des paris. Ce sont des jeunes joueurs. Faut voir dans la durée qu'est-ce que ça donne. Mais moi, j'aime bien le Lyon de Peter Bosch. Ça travaille très bien. En plus, avec des joueurs intéressants. Il y a les jeunes lyonnais formés à Lyon qui performent. Comme le latéral droit, il y a toujours Aouar, etc. Cherki. Donc ça, c'est intéressant, c'est pertinent.
Après, il y a débat sur leur éclosion, notamment Aouar qui.
Oui, non, après, enfin, Aouar, il est sur le banc maintenant. Aouar, il est sur le banc.
Qui pourrait leur faire passer justement ce palier de prétendant au podium à éventuellement aller titiller le Paris Saint-Germain.
Mais pour ça, il faut que ça titulaire déjà Aouar.
Il y a Lyon, il y a Aouar. Il y a une autre personne qui n'est pas forcément
Augusto.
Jeune.
Ouais. Augusto, il est bien.
Enfin, tu sais, si on
parle. Alors, Vivien, on l'écoute.
Si on rebondit sur Lyon, avec la blessure de Dembélé, moi, Slimani, je pense que monsieur Yacine Bouali va
Oh, laisse-le où il est, Yacine.
Non, pas du tout.
Un peu de repos pour Yacine.
Par exemple, moi, je pense que ça peut vraiment être son heure et que ça peut être une. Pas une bonne surprise, mais quelqu'un qui peut vraiment tout casser en ce début de saison.
Exactement. Je pense que Slimani, il a d'autres choses à proposer que Dembélé. Ouais. En plus de la profondeur, Slimani peut faire remonter le bloc.
Ouais. Il a un jeu de haut but. On l'a vu.
Et aujourd'hui, dans son entretien sur l'équipe, je ne sais pas si vous l'avez lu, il a précisé que ce n'était pas simplement qu'un joueur de tête.
C'est ça.
Et que ses qualités de pressing ont été beaucoup mises en avant, c'est plébiscité par Peter Bosz. Donc il a un gros rôle à jouer. Je pense qu'il a déjà rempli par-ci par-là, notamment en début de saison pendant la phase préparatoire, mais aussi au début de saison de la Ligue 1 quand il égalise à Angers ou même Glasgow Rangers, face au Glasgow Rangers en Coupe de l'UEFA ou face au Paris Saint-Germain où il a un rôle assez intéressant au Parc des Princes. Donc voilà, effectivement, l'Olympique Lyonnais, pardon, pour moi ce sera pas une surprise, mais ça ne peut que monter crescendo de toute façon avec les joueurs, l'expérience qu'ils ont, avec la nouvelle philosophie de Peter Bosz. Je pense qu'on va avoir un grand Olympique Lyonnais cette saison.
Olympique Lyonnais, Marseille, PSG.
Et Lyon.
Alors.
Et Lyon, en fait, Lyon, surtout
ouais,
en fait,
on en parlait là.
Sur Lyon, le truc qui est bien, moi je trouve ça intéressant, c'est le collectif. En fait, le collectif, il est équilibré. Il n'y a pas un joueur qui est pareil que d'autres. Quand on voit devant Toko Ekambi, Paqueta, même Slimani, Aouar ou Shaqiri, ce sont des joueurs qui sont tous différents, qui apportent tous un truc en particulier. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils se complètent tous, ils se marchent pas sur les pieds. Après, Paqueta, pour moi, il est au-dessus du lot, il est monstrueux ce joueur, et là il est en train de faire éclater tout son talent en Ligue 1, et je pense que Paqueta c'est le facteur X et c'est lui qui pourra faire la différence. Après, Slimani, il a un travail ingrat. Dembélé, il est là que pour marquer, on va dire, il est là pour conclure les occasions, il a déjà
marqué. Ouais, pourquoi Slimani? Vas-y.
Mais Slimani, en fait, c'est un buteur. Mais comme il a dit Mourad, il est là pour faire monter le bloc et il est là pour faire travailler les défenseurs, pour fatiguer. Donc parfois on peut le voir comme
c'est
quoi.
C'est l'élément déclencheur de la philosophie de Peter Bosz en fait.
C'est ça, parce que des fois.
Qui assure le pressing. Ouais. Le premier pressing, c'est Slimani.
C'est ça.
Et il ménage jamais ses efforts. On l'a vu, que ce soit avec le Sporting, avec.
Même Leicester, où il a très peu joué.
Avec Leicester ou avec Monaco, à l'époque de Ben Yedder. Donc c'est un peu sa qualité première, Slimani, c'est le pressing. On sait très bien que c'est pas un joueur qui va éliminer. Dans la surface,
il n'est pas là pour faire le spectacle, c'est
mais
ça.
Il a d'autres qualités qui va pouvoir faire justement éclore d'autres talents comme Paqueta qui est un milieu défensif.
Offensif,
du moins,
ouais.
Avec le numéro 10 et qui peut aussi marquer. Donc voilà, il est là, il va faire briller ses camarades, je pense.
Finalement, si on remarque bien, on a beaucoup insisté sur Lyon parce que forcément c'est Lyon qui fait.
Pourtant, ils n'est pas sur le podium.
Ouais, non, mais justement, c'est pour ça, c'est Lyon qui gâche un peu notre fameux PLM tant attendu. Parce que Paris, qu'est-ce qu'on va dire? Paris, finalement, ils sont déséquilibrés, mais chaque match, ils s'en sortent. Contre Lyon, pour moi, ils doivent jamais gagner, mais ils ont ce truc de grande équipe où ils savent exploiter les bonnes
opportunités. Ouais, mais ces matchs-là, il y en a là, ils perdaient le PSG. Là, ils gagnent parce qu'on va dire qu'ils ont un peu de chance ou c'est la chance du champion.
Non,
mais avant, ils pouvaient perdre ce genre de match.
Non, il y a eu le coaching, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'ils ont réussi à. Puis Neymar, malgré tout, il s'est provoqué le penalty. Bon, beaucoup ont débattu, etc. Mais
Oui, voilà, en fait, il y a ce facteur chance aussi, mais il y a aussi cet effet Messi. Il y a aussi cet effet Messi. Il y a le Messi effect au PSG, il y a le Sampaoli effect à l'Olympique de Marseille.
Tout à fait.
Et il y a le Peter Boss effect à l'Olympique de Lyon. Et c'est pour ça qu'on parle de PLM, justement. Parce qu'il y a un vrai game changer dans ces trois équipes-là.
Alors, Vivien.
Mais la question qu'on pourra se poser, c'est que s'il y a le fameux PLM qui arrive en fin de saison, est-ce que ce ne sera pas une consécration des coachs étrangers? Est-ce qu'on se dira pas,
les coachs étrangers
arrivent plus à assimiler leur philosophie?
Quel est l'impact de Pochettino au Paris Saint-Germain? Je sais pas si c'est sympa d'entraîneur, du fait qu'il soit étranger. Je pense que c'est plus son effectif.
Alors?
Même s'il y a sa contribution. Peter Boss, je pense que c'est
beaucoup plus méritant. Oui, c'est aussi son Paoli, on dirait.
Sa philosophie.
Vis-à-vis de l'entraîneur parisien.
Sampaoli, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est, enfin, j'attends de voir sur une saison entière.
Bon, on a vu les
bases. Moi, j'ai peur que ce soit un feu de paille, parce que quand on regarde son schéma tactique, il n'y a pas de latéraux, à part, heureusement que Lirola est revenu de la Fiorentina en début de saison et qu'il commence à prendre ses marques. Ça va un peu dans tous les sens. Il fait des changements tardifs. On a un gardien qui est pas très rassurant. Mandanda qui prend de l'âge. Une défense à 3, est-ce que ça suffit pour aller au bout? Chelsea l'a fait en Premier League, en Champions League, pardon, et peut le réaliser en Premier League cette saison. Est-ce que l'Olympique de Marseille a la profondeur de banc avec un attaquant confirmé qui est blessé et un potentiel avant-centre, on va dire espoir avec Dieng? Est-ce qu'il peut justement leur permettre d'aller au bout sur le podium? J'en doute. Il y a l'AS Monaco aussi, qu'on enterre peut-être un peu trop vite.
Ouais.
Il y a l'OGC Nice. Donc voilà, ça va être. Je pense que c'est la Ligue 1 Uber Eats la plus intéressante qu'on ait eue depuis plusieurs années.
Depuis 10 ans facilement.
Après, pour moi, le vrai curseur, ça reste les performances en Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que j'attends.
Et notamment en Europa League.
Parce qu'on peut aller en deuxième division district et voir, beaucoup de buts et un podium très concurrentiel. Mais ça reste des équipes de division district. Donc si ces équipes de Ligue 1 ne performent pas en Coupe d'Europe, ça restera toujours. On va dire, il y aura comme un arrière-goût de défaite, en fait. Voilà, si je puis dire. Donc voilà, la saison dernière, on parlait aussi du PLM. Le podium n'était pas au rendez-vous. L'Olympique de Lyon et l'Olympique de Marseille n'étaient même pas dans le top 3. Le PSG n'a pas fini champion. C'était l'avènement de Monaco,
exact,
qui, sur une deuxième partie de saison, a fait une remontada incroyable en termes de points. Les équipes de Niko Kovac. On n'a même pas parlé, vous voyez, tellement qu'on est. Je ne sais pas si on est amnésique ou si ils ont simplement disparu des radars. On n'a même pas parlé du LOSC, en fait.
Non, du champion de France en titre.
Pour moi, c'est normal qu'on en parle pas.
Ils sont 15e ou 14e.
C'est quand même une anomalie.
C'est incroyable.
On savait que ce serait compliqué avec ce qu'ils ont perdu. Parce que quand tu perds ton gardien, comme je disais il y a quelques semaines, aller en Ligue des Champions, tu perds Maignan, je trouve ça dur.
Je pense que
même en Ligue 1.
Non, c'est même pas ça, je pense.
Même en Ligue 1, parce que
c'est vrai que c'est un élément.
Comme on dit, c'est un révélateur. Bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, mais ça te montre, parce que Maignan, il te faisait gagner beaucoup de points. Bien sûr, c'est pas Maignan lui tout seul qui a fait que l'IA est champion. C'est un ensemble de choses. Bien sûr.
Je suis d'accord sur le fait qu'on peut changer de projet parce qu'on n'a plus les mêmes atouts, on n'a plus le même coach. Galtier, qui est le meilleur coach en activité, est parti à l'OGC Nice. On peut faire valoriser les jeunes en intégrant des jeunes issus du centre de formation, recruter malin comme ils l'ont fait jusqu'à présent, etc. Mais à ce point-là, dévaloriser son effectif, recruter peut-être un entraîneur qui est pas à la hauteur d'un champion de France en titre,
mais à la hauteur des crêperies de Lille, par contre.
Oui, non, mais on lui trouvera toujours un boulot, un poste de crêpier dans une rue, dans le quartier Montparnasse.
Il aime beaucoup la crêpe.
Finalement, la conclusion qu'on pourrait se dire, c'est que le PLM, ça fait presque 20 ans qu'on en rêve, mais finalement, ça arrive jamais.
C'est comme les top 4.
C'est comme finalement sortir avec Miss France. Ça fait 20 ans qu'on espère ça.
C'est toujours.
Et ça vient jamais.
Moi, je l'ai jamais espéré. Peut-être que toi, tu
l'as espéré. Viens toujours. Chaque année.
Comme bien dit.
Avec Neige, toi aussi. Miss France, bien sûr, c'est magnifique. C'est tranquille.
Espérer, Vivien, mais il va jouer le maintien très longtemps.
Voire même la relégation.
Ça dépend.
Non, je plaisante.
Ouais, bien sûr, ça dépend, Vivien.
Pour celles qui nous écoutent, c'est un vrai beau gosse, Vivien.
Ouais.
C'est le beau
gosse. Allez voir sur les réseaux, il est là, Vivien.
Ouais. Il est toujours à la recherche, Vivien. Madame sœur, c'est ça? Non, Vivien, sérieusement?
Ouais. Non, c'est Vic-Nash.
Moi, je ne cherche rien du tout, moi.
Non,
nous, on est là,
c'est bon,
il cherche une bonne équipe du PSG.
Bien sûr.
Avec
moi, je pour Saint-Etienne, déjà, je suis pas pour le PSG.
Les Stéphanois. Et le rachat, Stéphanois.
Il recherche un trident offensif au Paris Saint-Germain, sans blessure, qui performe, passe décisive, but entre Neymar, Mbappé et Lionel Messi. Et il lui en faut pas plus, Viknesh.
Bien sûr.
Là, c'est quelqu'un qui se contente de peu.
Il aime le beau jeu en plus.
Exactement,
Mourad, hein.
Du beau c'est jeu, ça. Du spectacle, de l'efficacité, c'est ce qu'il faut pour exactement. Tout le monde, hein. Pour tous les fans de
Vivien,
foot.
Vivien, il faut l'alimenter.
Ah bah Vivien. Ça c'est sûr. Hein. Ah Vivien.
Vivien, en veux-tu en voilà, il veut la Ligue des Champions.
Ouais. Non, moi je suis comme
il veut tout, Vivien.
Il veut la Coupe du Monde toutes les années, la Super League.
Exactement.
C'est ça.
On veut tout. On veut tout.
C'est ça, Vivien.
Exactement.
Il veut tout rafler, Vivien.
Il le dit bien. Il le dit bien, Mourad. C'est bien ça. Justement, on a parlé de cette Ligue 1 Uber Eats. On va s'attarder. Allez, on va faire une courte pause avant de revenir avec un très très gros sujet concernant Karim Benzema.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie ben voilà, des trois magnifiques Viknesh, Mourad et sans oublier Vivien. Un petit clin d'œil à notre consultante qui est Alison. Oui, Mourad.
Si je peux en placer une, justement, ouais. Pour Vivien qui est un peu le maire, entre guillemets, du 18e arrondissement.
Arrête, mais Mourad, arrête quand même, Mourad.
Aujourd'hui, on représente.
Un jour, c'est le 14e arrondissement, après, c'est le 18e, il t'arrive quoi?
Un petit clin d'œil au 18e arrondissement, parce qu'autour de ce plateau, on le caractérise avec Vivien, qui représente Château d'Eau, moi, la Goutte d'Or, et Vivien, ouais. Je porte de la Chapelle.
Ah, ok.
Voilà, on va pas parler football.
Ok. Allez, on prend la direction.
Enchaîne, Bilal, enchaîne.
De l'Espagne.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, Karim Benzema, Mourad, survole donc la Liga et la presse espagnole parle même du Ballon d'Or. Eh oui, auteur d'un doublé, deux passes décisives, il vient mercredi soir face à Mallorca, 6-1, on le rappelle, Karim Benzema rayonne avec les Meringues. Eh oui, la Maison Blanche, Viknesh.
Benzema, pour l'instant, c'est l'homme de la saison en Liga, même en Europe, même au niveau mondial, il est juste monstrueux. Depuis janvier, c'est le meilleur buteur, enfin le troisième.
Aussi ton petit, tu peux. Bien sûr,
on connaît pas ce qu'il y a dans les autres pays, dans les autres trucs, donc oui, pourquoi pas. Mais après, oui, depuis janvier, c'est le troisième meilleur buteur. Depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur en Liga, même en Europe. Il a marqué plus que toutes les équipes en Liga, équivalent au Barça. Donc ça, c'est juste incroyable. 8 buts, 7 passes décisives. Il est juste monstrueux. Il est complet. Il fait des contrôles du dos. Il marque des buts incroyables. Il fait jouer les adversaires. Enfin, non, ses partenaires, pardon. Il fait déjouer ses adversaires, je voulais dire. Donc non, Benzema, il marche sur l'eau. Il progresse. On dirait que c'est Benzema, c'est comme le vin. Avec les années, il progresse.
Ah ouais, carrément.
Non, mais avec les années, il progresse.
Ah ouais,
il devient le meilleur maire. Non, pas du tout. Après, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit après. Moi, je reprends juste les expressions.
Il se bonifie
avec l'âge. Et c'est incroyable comment il devient monstrueux. Et il est complet. C'est ça la chose. Parce qu'avant, on parlait de Benzema, le lieutenant de Cristiano. Maintenant, on parle de Benzema, le joueur en lui-même, avec toutes ses capacités, toutes ses compétences. Il est juste incroyable.
Je pense que là, on peut éliminer Messi et Cristiano Ronaldo de la comparaison avec Karim Benzema.
En ce moment, oui.
On peut éventuellement le comparer avec Lewandowski.
Lewandowski, le polonais, international.
En termes de statistiques, déjà sur ce début de saison, Benzema a quelques points d'avance. Mais d'un point de vue, Benzema a quelque chose en plus par rapport à Lewandowski. C'est la créativité et l'implication dans le jeu. Pour moi, c'est un des joueurs qui a le QI football le plus élevé, avec Lionel Messi.
Ouais.
Il l'a dit lui-même, j'avais lu certaines choses sur Karim Benzema, il a totalement changé sa façon de s'entraîner, il y a un gros travail foncier, il a changé sa nutrition aussi. Et pour rebondir sur ce que dit Viknesh, c'est que Karim Benzema aujourd'hui ne porte pas que le Real sur son dos, en témoigne le but qu'il a mis face à Mallorca, c'est qu'il porte toute la Liga.
C'est la star de la Liga.
Voilà, c'est la star de la Liga. Aujourd'hui, la Liga fait face à une absence de star. Crise économique, fuite des talents, absence de star. Aujourd'hui, s'il n'avait pas Karim Benzema en Liga, qui aurait été mis en lumière?
On parle même pas de la Liga, c'est peut-être une star en croissance,
c'est peut-être une star en construction. On a Griezmann, je ne sais même pas s'il a ouvert son compteur de passes décisives avec l'Atlético Madrid.
Non.
Je ne suis pas sûr. On avait João Félix qu'on attendait. Séville, Villarreal et Valence, ce sont les entraîneurs qui sont des stars, justement, et non, ce sont plus des blocs équipes avec des entraîneurs stars. Donc Karim Benzema, aujourd'hui, surnage la Liga. Et pour en revenir sur la question de Bilal pour le Ballon d'Or, le Ballon d'Or, généralement, c'est le roi d'Espagne qui la gagne. Et le roi d'Espagne, aujourd'hui, c'est Karim Benzema.
Oui, donc, selon Mourad.
Il y a plusieurs critères pour remplir le Ballon d'Or. Il y a le palmarès, on les connaît bien. Le talent, c'est le fair play, c'est plein
les
de choses.
Statistiques aussi.
Les statistiques. Et Benzema remplit
la bonne bouille aussi.
Sauf. Non. Le palmarès la saison dernière.
Le palmarès la saison dernière, selon Mourad.
Il a gagné, mais il y a eu quelques impacts en fait non palpables.
Ouais.
C'est-à-dire le fait qu'il évite à l'équipe de France de s'écrouler à l'Euro. Il a, malgré la crise qu'a connue le Real Madrid la saison dernière et son effectif réduit, les blessures, etc., ils sont quand même allés en demi-finale de Ligue des Champions et ont perdu le titre sur le fil.
Bien sûr.
Karim Benzema a été un grand artisan, justement, de tout ça. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour sa carrière aussi, c'est important, j'avais oublié, un des critères du Ballon d'Or, c'est aussi la carrière. En récompense à toute sa carrière, je donnerai le Ballon d'Or à Karim Benzema.
Alors justement, on a un Saïd, un fervent auditeur de cette émission qui est Tam Sport, qui nous dit que Karim Benzema est la plus belle promotion pour aimer le football. C'est bien dit ça, oui.
Parce que...
Et bien.
Ah ben, je suis d'accord avec Saïd. Alors, techniquement, c'est incroyable. C'est l'impression qu'il rate rien ou pas grand-chose. C'est faut voir, par exemple, c'est 95 minutes contre Valence. Moi, je trouve que c'est une masterclass. Et ce qui est fort, c'est que il a ce côté, il est décisif. Hein. Moi, je trouve que vraiment, peut-être son match référence, c'est Valence, parce que t'as l'impression qu'il est juste dans tout. Il sait exploiter des petites opportunités comme son but à 88e minute. Et c'est une masterclass. Et souvent, tout le monde dit Benzema, il était dans l'ombre de Cristiano, etc. Moi, je pense que d'un côté aussi, il a su profiter de Cristiano dans le travail physique. Parce que regardez Benzema maintenant. Et Benzema, quand il est arrivé à Madrid, moi, je trouve que physiquement, c'est plus la même personne. Il avait des joues, etc. Là, maintenant, tu vois,
ouais,
il
c'est pertinent
tracé.
Ce que tu viens de dire,
Et finalement,
il y a ce travail foncé, justement.
Voilà, il a la même qualité technique, et il a tout le travail foncé que t'as dit, Mourad, et t'as l'impression qu'il est plus clutch, comme on dirait en NBA. Il est, je sais pas comment dire ça.
Il est plus impactant, il est plus, plus décisif.
Par exemple, si on prend, je me souviens, il y a 7 ans, il y avait Ancelotti, que, donc, dans son premier passage à Madrid, il avait dit, Karim Benzema, c'est un joueur fabuleux mais son problème, c'est qu'il n'a pas envie d'être le meilleur joueur au monde. Et là, en 2021, on a l'impression que justement, il a cette envie et qu'il est prêt à assumer ce statut-là.
Entièrement d'accord avec Vivien. Moi, je pense, justement, en parlant de clutch, moi, je parle de mindset. Je pense qu'il y a un changement de mindset de la part de Karim Benzema. Il était ravi d'être le Robin de Batman à l'époque de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.
Ouais, il est pas mal Robin aussi.
En fait, aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas le choix, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, s'il ne porte pas le Real Madrid sur son dos, c'est. Il y a personne. Qui est-ce qui va prendre la relève, justement, au poste d'avancement de Mariano? Jovic?
Bon, c'est sympa, ça aussi.
Non, mais c'est sympa. C'est sympa à l'entraînement. Quand tu fais quand tu fais une passe à 10.
En Castilla aussi, c'est sympa.
En Liga, c'est bien, Mariano.
Lorsque tu concours pour aller. Pour le titre en Liga ou pour faire le meilleur parcours possible en Ligue des Champions, je pense que tu dois être performant, tu dois être prêt physiquement, tu dois améliorer ton jeu, tu dois être décisif, tu dois faire jouer tes coéquipiers. Et c'est ce que fait Karim Benzema. Juste pour la petite statistique, Benzema a autant de buts que le FC Barcelone cette saison.
Aïe.
Donc ça, c'est aussi.
Ouais, ça fait plaisir à Mourad. Tu le balances maintenant, Mourad. Tu le balances comme si on narguait un peu les bons granats.
Mais je pense qu'à lui, ça va lui faire plaisir. Ah ben. Puisque la saison dernière, puisqu'on l'a sans cesse comparé à Lionel Messi, sans cesse comparé à Cristiano Ronaldo, même si bien sûr ils sont incomparables. Mais le fait d'avoir cette statistique-là, après le départ de Lionel Messi, je pense que ça peut être
un élément motivateur. Fièrement, c'est le maillot de Karim Benzema. Ce soir, il le porte, Viknesh. On écoute Viknesh sur Benzégol, alors.
Non, après Benzema, ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que maintenant, comme j'ai dit dans une émission précédente, Benzema, c'est le numéro 9, le numéro 9,5, et il est aussi numéro 10, en fait. Il est trois postes à la fois. Il est tellement complet, il fait progresser ses adversaires, ses coéquipiers, et j'apprends avec les adversaires.
Et ses adversaires aussi.
Quand
tu te fais enrhumer, ils ont intéressant.
Oui, parce qu'en fait, on voit Vinicius, parce que la saison dernière, Vinicius, à la fin, il savait même pas conclure les occasions. Là, Vinicius, il a déjà marqué 5 buts. Et on voit qu'il progresse aux côtés de Benzema
Vinicius,
aussi.
Même Vinicius, c'est Karim Benzema. Vous vous souvenez que Vinicius n'est plus le même depuis la déclaration dans les couloirs de Bernabéu de Karim
Benzema.
Dis,
c'est grâce à Benzema qu'il progresse aussi, en fait.
Cette déclaration-là, en l'occurrence. C'est pas que grâce à Karim Benzema sur le jeu, mais c'est aussi les mots qui ont été dévoilés dans la presse.
Ah, on poursuit avec toi,
Vinicius. C'est qu'il est aussi leader parce qu'il a eu plusieurs fois le brassard de capitaine. Et ça, il le prend naturellement aussi. Il le met sur le terrain parce qu'il donne des ordres à ses coéquipiers. Il les replace, il leur parle. Donc, même Kamavinga qui a intégré le Real récemment, je pense que Benzema, il va énormément l'aider. Donc, il y a aussi ça qui prend en compte parce que Benzema, certes, sur le terrain, on sait tout ce qu'il donne, on sait tout ce qu'il fait. Mais il y a aussi le leader en dehors du terrain et même sur le terrain, avec le départ de Ramos, entre autres, même Varane qui ne parlait pas énormément. Mais Benzema, c'est un des leaders. Marcelo, il est même plus dans les projets du Real Madrid. Je ne sais même pas ce qu'il fait encore là-bas. Donc voilà, Benzema, en fait, il fait tout au Real maintenant. On parlait de dépendance avec Ramos avant, qui était entraîneur adjoint, capitaine, etc. Maintenant, c'est Benzema qui fait tout. Il marque, il passe aux autres, il explique aux autres comment il faut faire, il fait progresser les autres. Sans Benzema, le Real, c'est rien. Parce qu'il ne va pas jouer avec Mariano, Luka Jovic et Rodrigo
c'est
devant.
C'est l'ange de la Liga, il survole les matchs. J'ai l'impression que c'est sa saison et
c'est là où jamais
lui donner le Ballon d'Or.
Oui, selon toi, Mourad, c'est cette saison
des CR7 et des Messi d'un point de vue statistique cette saison. Donc il est sur
et
le
ça ferait plaisir à pas mal de personnes aussi.
Mais c'est juste
que
mérité.
Benzema prenne mérité aussi.
Mais
le travail acharné quand même. Alors, moi, une certaine hypocrisie, oui. Pourquoi alors?
En fait, j'ai été déçu, même si j'apprécie beaucoup José Mourinho. Je sais pas si vous avez vu si vous avez lu justement ses, son discours par rapport à la Roma, où il disait bah, donnez-moi les plus grosses légendes du football des années 2000 et je vais au bout de la Ligue des Champions.
Oui,
et
on
il a cité
au Real.
Plein de joueurs, il a cité Drogba, il a cité Wayne Rooney, il a cité Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, et il n'a pas cité Karim Benzema. Donc moi je pensais, bah, justement au lendemain de son doublé, j'ai une petite pensée pour Karim Benzema, je me dis il a évolué sous les ordres de Mourinho, il est en train de faire un début de saison tonitruant et il n'a pas la reconnaissance aujourd'hui des plus grands du football, notamment José Mourinho. Peut-être qu'il l'a, il en a d'autres, tu l'as cité tout à l'heure, Ancelotti, mais j'aurais bien aimé quand même un peu plus de reconnaissance. Et il a tardé à revenir en équipe de France aussi. Donc voilà, je pense que c'est un peu, mais c'est en train de changer, c'est un peu la tête de Turc, ça a été la tête de Turc du football européen sur ces 10
dernières
années.
Français surtout.
Français surtout. Mais là, il est en train de revenir petit à petit et justement, Benzema a besoin de statistiques. Alors moi, je ne suis pas très fan des statistiques, je ne suis pas un aficionado des statistiques, mais Benzema, ce qui pourra lui rendre service, ouais, ce seront justement ses statistiques. Et là, c'est 15, l'implication sur 15 buts à 6 journées en Liga, c'est du jamais vu au XXIe siècle. Viknesh l'a dit tout à l'heure. Alors, et je pense que c'est tout à son honneur. Et qu'il continue ainsi.
On l'écoute. Vivien, bah, on poursuit avec Karim Benzema, l'international français.
Pour se rendre compte, c'est tout simplement le premier français depuis Zidane à être vraiment le patron d'un grand club espagnol, voire d'un meilleur club au monde. Enfin, depuis Zizou, on n'avait pas eu un Français qui était vraiment le patron comme ça d'une équipe qui joue le titre en Ligue des Champions. Donc ça montre déjà l'ampleur de Benzema, tout simplement.
Après, on s'enflamme un peu trop.
Ouais.
Les tours éliminatoires, les matchs éliminatoires de Ligue des Champions n'ont pas commencé. On n'est pas.
Enfin, oui, il y a une championnat. Première journée quand même.
Là. Oui, il y a une première journée, mais voilà,
ils sont pas sortis de les
poules. Ici, ils sortent en 8e.
La semaine prochaine, il y a déjà le PSG Manchester City.
S'ils sortent en 8e, est-ce que Benzema serait éligible au Ballon d'Or? Oui. Je ne sais pas.
Ah, je crois pas.
Bah après, ça sera pour le Ballon d'Or 2022.
Voilà, moi, justement, je parle des deux Ballons d'Or. Je parle du Ballon d'Or de cette année et je parle du Ballon d'Or de l'année prochaine.
C'est la France est sacrée.
D'accord, au Qatar.
Moi, je me projette dans le futur. Je me dis que Benzema, il est bien positionné pour le Ballon d'Or de l'année prochaine, mais pour le Ballon d'Or de la saison prochaine, s'il vous plaît, ne nous parlez pas de Jorginho, ne nous parlez pas des Kanté. Je pense que Benzema remplit tous les critères.
Il y a le Mondial l'année prochaine. Il y a le Mondial, il y a la Coupe d'Afrique aussi des Nations. Il faut le rappeler, Mourad.
Oui, effectivement.
Ben oui, il faut le rappeler.
Il y a la Coupe d'Afrique des Nations, mais il ne sera pas concerné.
Oui.
Il y a la Ligue des Nations, je pense. Oui. La France est concernée. Ce sera.
C'est bientôt France-Belgique.
Ce sera à Turin. C'est bientôt France-Belgique. Donc à lui, justement, d'utiliser toutes ses opportunités pour faire taire ses détracteurs. Voilà.
Viknesh.
Mais est-ce qu'il y a encore des détracteurs pour moi? Moi, je pense pas. Il y en a énormément. Dans le monde du foot, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. Certes, Mourinho.
Aujourd'hui, il y en a presque plus.
Non,
c'est ça.
Pour moi, il n'a presque plus. Mourinho, certes, on comprend parce qu'il y a des embrouilles quand il était au Real. Ça s'est pas forcément bien passé avec Benzema. Mais après, les autres, je pense que les gens qui aiment le foot et qui reconnaissent le spectacle, tout le monde aime Benzema.
Moi, j'ai pas vu d'offres émanant de Première Ligue, des mastodontes financiers de Première Ligue, que ce soit des oligarques russes, que ce soit des manias américains.
Un peu difficile de le faire bouger, peut-être. Il a raison, Viknesh.
Même s'il rêve du Real Madrid depuis gauche, j'en banque cet été quand même, il s'est posé des questions.
Moi, c'est. Outre-Manche, on est un peu sceptique à l'égard de Karim Benzema parce que c'est pas le jeu qu'ils ont l'habitude de voir.
C'est
le Ken Rush. C'est pas le joueur un peu à l'élégance, un peu comme Zizou n'a jamais évolué en Première Ligue, par exemple.
Ouais.
Il a été choisi à l'époque.
Mais tu l'aurais vu, toi, Zizou?
Je l'aurais pas vu. Il avait même à Blackburn, Zinedine Zidane avait été préféré à Alan Shearer. Je sais pas si vous souvenez,
oui.
Alan Shearer a été préféré à Zinedine Zidane. Donc voilà, donc je pense que c'est pas le. Il n'y a pas de. Je pense qu'il ne s'est pas compatible avec la Première Ligue, Karim Benzema. Donc voilà, donc c'est pour ça que je disais des détracteurs, c'est peut-être une question d'affinité. Je vois mal un Gary Neville ou un Gary Lineker sur les plateaux télé anglais plébisciter Karim Benzema. On le voit pas souvent. On voit souvent les plateaux anglais plébisciter Kevin De Bruyne, Lukaku pour sa puissance, Rashford, Kylian Mbappé. Mais on parle pas beaucoup de Karim Benzema. Simplement les vrais fans, les aficionados, les vrais adeptes du football. Le football latin, éventuellement, les journalistes espagnols plébisciter Karim Benzema tous les jours. Sur Marca aujourd'hui, ils ont fait un papier.
Plus dans la zone âme sud. Non, mais c'est intéressant. Exactement. C'est vraiment intéressant.
C'est une question de vision.
En Asie, même en zone âme sud. Oui, mais là, il a pas tort là. En Afrique, bon, voilà, on en parle tout le temps. Mais c'est vrai. Comparé à certains joueurs, Mourad.
Moi, Benzema pour moi.
Oui, c'est Karim Benzema.
Chaussures pointues. Voilà, j'ai jamais vu Benzema. Je sais pas moi, tacler, faire du kick and rush, faire des.
Quand Liverpool il a mis un but de.
Son but en 2018. Parce que ça reste un
football. Il a mis une espèce de faux tacle qui a surpris le gardien.
Mais c'est quelqu'un qui joue debout. C'est rarement quelqu'un qui se jette. Voilà, qui va tacler. C'est quelqu'un qui est élégant. Et ça, en Première Ligue, on n'a pas l'habitude.
Fekneche, allez, avant la pause.
Bah après, Benzema, comme ça dit, Mourad, en fait, Benzema, en fait, c'est un joueur qui est hors du commun, parce qu'en fait, c'est propre à chacun. On a tous une culture différente selon notre connaissance, selon ce qu'on aime. En Angleterre, même en Écosse, des choses comme ça, on n'a pas la même chose, on n'a pas la même vision du foot. Après, nous, on est latins, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Amérique du Sud. Donc, nous, on aime le spectacle, on aime les joueurs élégants, on aime les numéros 10, on va dire, on aime les créateurs. Donc, c'est pour ça qu'on aime Benzema. On aime un joueur
si
qui est aussi
jeu,
complet que ça.
Benzema,
mais en Angleterre, c'est pareil, c'est ça la chose. Parce qu'en Angleterre, c'est ça.
Il incarne le deuxième attaquant.
Ouais, c'est comme j'ai dit précédemment, c'est ça. En fait, il a plusieurs postes à lui-même. Et comme il est innovateur, en quelque sorte, dans le monde du foot, parce qu'un numéro 9, moi, je sais pas si on peut dire numéro 9 pour Benzema, un attaquant, on va dire, qui est aussi complet que ça, il n'y en a pas eu tant que ça avant. Donc, non, après, il faut voir.
Mais je pense par rapport à Lewandowski. Lewandowski, c'est peut-être le meilleur finisseur.
C'est finisseur, rien à dire. Ouais, carrément.
Mais Benzema, il a une corde en plus, et c'est justement la créativité et le jeu, que Lewandowski n'a pas.
Bah, après,
et il a aussi des maîtres à jouer derrière lui, Lewandowski.
Ouais, il n'y a pas des peintres à côté de lui. Miller, il est pas mal,
mais,
quand même.
Mais justement, moi, je pense que
non.
Sur le manque de reconnaissance de Benzema, moi, je pense qu'il faudrait peut-être un titre en équipe de France. Pour nous, tous les francophones qui ont un peu du mal à savourer, parce que par exemple, en Espagne, Benzema, même, tu demandes, même à un Catalan, tout le monde reconnaît sa valeur, mais en France, on a l'impression, je sais pas, c'est comme si on banalise ces années.
Mais comment t'expliques la perception de Karim Benzema outre-Manche ou bien du côté de la Bundesliga?
On
n'entend pas forcément parler. Tu vois ce que je veux dire? Le Bayern de Munich, par exemple, on n'a jamais vu de proposition pour Karim Benzema, qui je pense peut.
Plus personne ne semble arrêter à Karim Benzema en tout cas.
Est-ce qu'ils ont envie de mettre en concurrence? Ils ont leur Lewandowski et c'est peut-être pour ça que le Bayern.
Lewandowski avait déjà été approché dans les médias. Après, on sait que le Bayern, c'est pas le genre de club à crier sur tous les toits lorsqu'ils sont intéressés par un joueur.
Et puis,
mais voilà, moi je pense que c'est d'un point de vue médiatique.
J'aime pas trop non plus.
Justement, en France, il y a le côté obscur. De l'audience des médias qui est fan de Karim Benzema.
Ouais. Hein?
Autant il y en a qui sont détracteurs, mais t'as le revers de la médaille qui est ultra fan de Karim Benzema.
Ouais. Je t'aime moi non plus envers Karim Benzema, c'est ça.
Alors que dans d'autres pays, on n'en parle pas assez. Voilà.
Justement, à quelques semaines de cette fameuse remise du Ballon d'Or, de plus en plus de voix, s'élèvent pour que l'international français remporte ce fameux trophée tant convoité. Eh oui, tant convoité. Dernier Ballon d'Or en date pour un Français, Vicnesh.
Zidane, non?
Alors, Zidane? Zidane.
Zidane, quelle année?
98.
Ça remonte.
C'est en 2000 où il le perd parce qu'il met le coup de tête.
Ouais.
Il finit deuxième, le donne à Figo.
En 2006 aussi, on l'a pas vu.
2006, il est pas loin.
Il y a eu plusieurs épisodes.
2000, c'est le coup de tête qui met en.
Il a raison. Avec la Juve.
Il a perdu le ballon d'or sur deux coups de tête.
Tu rigoles, mais c'est vrai,
il aurait dû en avoir trois, il en a un.
Il y a Ribéry qui était.
Ribéry en 2013
aussi. Il y avait Thierry Henry aussi à une époque, je crois. Même
2003, c'est honteux de le donner à un
époque. Thierry Henry, c'est le cas inverse de Karim Benzema. Très plébiscité en Angleterre, du côté de la Première Ligue.
Bien sûr.
Il jouait là-bas aussi, ça aide.
Et en Espagne, un peu moins reconnu, où c'était plus un faire jouer pour Lionel Messi et Samuel Eto'o.
Mais il arrive en fin de carrière aussi.
Vous restez avec nous pour la dernière partie, toujours dans le débat. Concernant cette planète sport avec Vicnesh, avec Vivien et aussi Mourad pour m'accompagner. Et on reviendra avec justement cette folie dans nos stades.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie. Eh oui, début de week-end pour les auditrices, pour les auditeurs de Beurre FM. Toujours là avec toute l'équipe de Time Sport. Vivien pour m'accompagner, Vicnesh et sans oublier Mourad. Paqueta a-t-il reçu un carton jaune pour avoir tenté justement de dribbler lors de ce match OL 3
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, des supporters lyonnais et même Neymar reprochent à Stéphanie Frappard d'avoir sanctionné Paqueta d'un carton pour un dribble provocateur peut-être lors de cette septième journée de mercredi soir lors de l'OL 3. Et justement, oui, Mourad.
Non, mais moi je suis assez surpris justement de ce qui s'est passé. Je pense que aussi provocateur soit-il, un geste technique sur le terrain ne doit jamais être sanctionné. Si
on a l'impression
de célébration poussée, de célébration un peu autour de l'humiliation à la fin du match, etc. Je suis d'accord, on peut sanctionner. Mais sur un terrain, un geste technique, quel qu'il soit, ne doit jamais être sanctionné. Dans ce cas-là, Ronaldinho, alors, il prend 2 ans de prison avec sursis.
Bon, oh, mais quand même, un coup c'est la prison, mais arrête, Mourad, quand même.
Je sais pas si vous vous souvenez justement des prouesses techniques de Ronaldinho sur les terrains. Les sombreros, les foison.
On s'en souvient,
en fait.
Donc, voilà, dans ce cas-là, Stéphanie, c'est Stéphanie Frappard, c'est ça?
C'est ça.
Elle aurait porté plainte, alors, dans ce cas, contre Ronaldinho. Après, pour rester sérieux, alors, moi je pense que voilà, c'est même si l'arbitre aurait dû être un peu plus intelligent, même si effectivement il a fait semblant de ne pas écouter la réprimande de l'arbitre, je pense que l'arbitre n'aurait pas dû tomber dans le panneau parce que elle sait très bien qu'en mettant son carton jaune, ce qui va être mis en avant, ce sera justement la tentative de ce geste-là et non pas le fait qu'il a ignoré l'arbitre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc aux arbitres aussi d'être formés à être intelligents, d'être formés à leur roublardise des joueurs. Paqueta, bien sûr qu'il a dû entendre l'arbitre le rappeler à l'ordre en lui disant « N'en fais pas trop, tu vas exciter les supporters, il y a déjà eu des débordements. » Mais dans ce cas-là, il faut être malin. Ça s'appelle faire preuve de pédagogie. Et moi, c'est ce que je reproche justement à Stéphanie Frappard.
Et au football français, non ?
Trop but en blanc. Ouais, mais c'est au football français en général. Trop but en blanc, tu fais un geste technique, peu importe le contexte, je sors un carton jaune. Et le Joga Bonito, justement Neymar en parlait, il n'a pas le monopole du Joga Bonito, même si on a tous vu la publicité à l'époque de France 98, le Brésil dans l'aéroport qui nous a tous fait, ça finit par un poteau rentrant, si je me trompe pas.
Non? Ah, je me sens bien,
mais il y a d'autres joueurs aussi techniques, donc j'aimerais bien que Neymar aussi mette en avant les joueurs qui ont aussi ces qualités techniques. Je pense notamment à Tem Ben Arfa, qui l'a prouvé saison après saison et qui n'a jamais été mis sur un piédestal au même titre que Paqueta. Son talent n'a jamais été reconnu.
Ouais, moi.
Ben Arfa avec Neymar ou Paqueta.
Non, pourquoi Paqueta Ben Arfa?
Non, au niveau du talent.
C'est un autre débat, mais quand même, il y a du talent.
Ok, au niveau du talent, il n'y a pas de souci.
Mais qu'est-ce qu'a Paqueta plus que Ben Arfa? À leur prime, tous les deux. Je pense que Ben Arfa.
Paqueta, il n'est pas encore en prime, il a le temps, il a quand même 4 ans.
D'un point de vue technique, je pense que Ben Arfa fait partie du top 10.
Il n'a rien à leur dire,
il n'a rien à leur
dire.
Alors, Meknesh et Vivien, allez, on vous écoute.
Si on reprend sur le débat sur l'arbitrage, cet exemple, ça prouve le football français, c'est que il y a pas de psychologie en fait. Les arbitres, ils sont obligés d'appliquer bêtement des sanctions pour rentrer dans les barèmes. Quand on prend les fameux critères de notation des arbitres, on voit que les arbitres sont obligés de respecter certains critères. C'est moi l'exemple qui me vient en tête, c'est il y a quelques années. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Sacco, au dernier match du PSG en 2013, finit gardien de but parce que Rougnier prend un rouge. C'est exact. Et l'arbitre, il dit à Rougnier, mais je suis obligé de vous mettre un rouge, sinon je vais être sanctionné. Pour un truc, je me souviens même plus, mais un truc super bête, il y a même pas eu faute,
Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu préconises? Qu'on mette des oreillettes?
Mais le problème, c'est qu'on peut pas
comme
changer.
Rugby, tu vois, on dénature le football. Déjà qu'on a des problèmes avec la VAR, déjà qu'on a des problèmes avec la vidéo.
Ah non, les
oreillettes. En plus, on se met à mettre des micros, à écouter les échanges entre les joueurs. En plus, je sais même pas si Paqueta pourrait avoir une conversation avec Stéphanie Frappard. Ce sera plus de la moquerie.
Mais non.
Avec Brandao, avec
il avait pas touché.
Sur le jeu.
Et quand même.
Donc voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gestes techniques, on doit être, enfin en Ligue 1 Uber Eats, à la hauteur justement de la Ligue 1 Uber Eats, c'est-à-dire avec l'arrivée des Messi, des Neymar, l'éclosion des Mbappé. On doit laisser place au jeu, place au dribble, parce que sinon, on bride ces joueurs-là.
Mais comment tu changes en termes de règlement?
Attends, laisse-moi juste finir.
C'est les arbitres.
C'est comme si t'achetais une voiture de sport,
oui,
et que, petit clin d'œil à Anne Hidalgo, et que tu étais...
Oh, laisse la politique, quoi, tu voulais arrête, Mourad. Mais non.
Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur la bonne émission pour ça.
Et les arbitres doivent être partie intégrante, justement, de ce qui se passe en termes de philosophie en Ligue 1. S'ils sont laissés en dehors du débat, c'est là qu'il y a problème. Donc on a l'impression qu'ils sont déconnectés. Ouais. Ils sont là, ce sont des arbitres, ils prennent des cours, ils savent pas qu'il y a un Paqueta, il y a un Neymar, qui vont tenter des gestes techniques, il y a des Mbappé, et qui prennent des sanctions à l'alerte. Analysons le contexte et prenons des décisions en fonction. Et c'est ça que je reproche justement à Stéphanie Frappard. Elle est un peu hors contexte.
Meknesh.
Non, après,
avant le dernier sujet.
Aux arbitres, en fait, c'est de ne pas s'adapter à la Ligue 1. Comme a dit Mourad, en fait, la Ligue 1 veut grandir. Elle grandit. On voit que tous les clubs ont été achetés par des gens qui veulent mettre de l'argent, qui veulent faire progresser le championnat. Les arbitres, ils doivent être au niveau.
Ouais, toi, il n'y a que l'argent qui t'intéresse.
Non, mais après, l'argent, ça aide aussi pour les clubs. On a vu Marseille, on a vu Lille, on a vu Nice, on voit Lyon. Mais c'est grâce à l'argent qu'ils achètent des bons joueurs et qui ont le spectacle aussi. Parce qu'en fait, après, on va parler des supporters. Mais là, c'est pareil, en fait. Parce que là, si les arbitres ne sont pas à la hauteur de la Ligue 1, les joueurs joueurs, en fait, ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas faire plaisir aux gens et donner du spectacle. Parce que Paqueta, si on l'empêche de faire des gestes techniques, on l'empêche de jouer son football, il fait quoi, en fait, Paqueta en Ligue 1? Il va partir, après, on va dire, on va pleurer encore une fois.
Et le futur Paqueta qui a des envies éventuellement de rejoindre la Ligue 1, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit non, mais en fait, la Ligue 1, les prouesses techniques, c'est limité au. C'est limité au contrôle et au projet.
C'est limité de la au contrôle
et au projet. Il se dit, ben moi,
il y a beaucoup de talent, tu fais bien de le dire.
Je suis originaire d'Amérique latine, j'aimerais bien m'exprimer, donc je pense que la Ligue 1, c'est pas fait pour moi. Du coup, il va atterrir en Serie A.
Ça poserait problème alors, c'est bien ça.
Donc je pense que c'est un problème beaucoup plus profond que ça. Le carton jaune de Stéphanie Frappard est beaucoup plus profond.
Après, il y a pas mal de stéréotypes en fait en Ligue 1. Par exemple, quand on voit Verratti, on sait très bien qu'à la fin du match, il aura un carton jaune. Donc il y a des joueurs comme ça en fait, on sait très bien que les arbitres, ils ont des stéréotypes, des idées en tête et du coup, ils mettent ça en exergue.
Non, mais Paqueta, le seul stéréotype qu'il a, c'est il souffre d'être brésilien.
C'est ça, il fait du jeu, il fait du spectacle.
Donc, sortons un peu de ces clichés, le brésilien est technique. Le maghrébin est incontrôlable, le Renoir
il est puissant, est athlétique,
puissant.
Et sortons des quotas aussi.
Sortons des clichés.
Et sortons des quotas.
Il y a eu des quotas, c'est pour ça qu'il y a des clichés. Et c'est prenons le jeu en fonction de ce qu'il est. Et ayons une ligne directrice en Ligue 1, comme une ligne éditoriale dans la presse, en disant cette année, le thème, ça va être le jeu. Parce qu'on a recruté des Messi, parce qu'il y a des Neymar, parce qu'il y a des
Mbappé. Il faut grandir, en fait.
Etc., etc.
Ouais. Tout le monde doit grandir en même temps.
Eh ben, on l'espère, tout comme le football français. C'est parti pour la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport.
Eh oui, violence dans les stades. Vic Neige de football, l'ex-président de la Ligue 1, monsieur Frédéric Thiriez, prône les interdictions de stade pour ses supporters. Eh oui, on est toujours en crise sanitaire, faut le rappeler.
Toujours.
Il y a des personnes, on a l'impression que voilà, post-Covid, c'est ça y va quoi. C'est, je sais pas, il y a un défoulement quoi de certains supporters. Mais c'est vrai, moi.
Mais après, alors, c'est un reflet.
Allez, Vic Neige, on va l'écouter.
C'est un reflet de la société en fait. Là, on était tous pendant le confinement, etc. On est tous à la maison, etc. On n'est pas partis au stade.
Ouais, toi, tu as dormi
Non,
ça,
pas du tout. Moi, j'ai travaillé, je me suis reposé, j'ai fait plein de choses. Et du coup, là, en fait, là, le retour au stade, en fait, c'est un défouloir pour les supporters. Enfin, après, je vais pas dire que c'est bien. Bien au contraire, c'est pas bien ce qu'ils font. On sait très bien, on va pas revenir dessus. Mais après, c'est un défouloir. Il faut pas oublier qu'un stade de foot, ça reste une mini société en tant que telle, parce qu'il y a des gens, enfin il y a des gens de partout en fait, il y a des gens de la classe populaire, des gens riches, etc., etc.
Qu'est-ce que tu souhaites, Vic Neige?
Donc moi non, en fait il faut bien sûr qu'il faut interdire les gens qui sont coupables de tout ça.
Ouais.
Mais après, par exemple tout ce qui était par exemple là, je sais qu'à Lyon par exemple il y a les supporters qui vont à l'extérieur qui sont interdits, ça je suis pas pour.
Oui, mais c'est parce pas nouveau hein, ça,
mais
c'est
ça je suis pas pour en fait.
Sanitaire ou pas, ça fait 8 ans que les Lyonnais ne sont pas déplacés à Geoffroy Guichard, donc
après c'est comme Lens qui,
il y a rien de nouveau,
c'est comme Lens qui dit à ses supporters d'aller pas à Marseille, etc.
Moi c'est juste pour rebondir sur ce que dit Vic Neige, j'ai l'impression que les débordements se généralisent, j'ai l'impression que c'est une journée une bagarre
au moins
et je me dis que il l'a dit, Bilal le disait justement en préambule, c'est peut-être un problème de défoulement, il y a peut-être un défouloir par rapport aux supporters, notamment à la frange ultra, justement ces supporters. Mais je me dis, ils se plaignaient au pied des stades avec des manifestations en disant on joue à huis clos, on n'a pas accès, on peut pas soutenir notre équipe, etc., etc. Mais derrière, ils s'auto-confinent, justement,
c'est ça,
avec ces agissements. Donc, je pense un minimum, je sais pas, d'organisation, peut-être parler entre eux dans un premier temps, au lieu d'attendre les décisions de la LFP, au lieu d'attendre les décisions des clubs, parce que
ils vont arriver à grand pas ces décisions.
La LFP pointe du doigt les clubs justement, mais les clubs, ils prennent les décisions. L'OGC Nice notamment a porté plainte contre ceux qui ont eu des agissements un peu borderline ou même
Lens aussi, ils ont fait pas mal de choses.
Lens a porté plainte, les clubs jouent le jeu. Donc aujourd'hui, le problème, il est chez les supporters.
Et on a l'impression que les sanctions ont peu d'effet, Mourad et Vivien.
Les sanctions, peut-être peu d'effet, arrivent trop tard. C'est-à-dire, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de plaintes et on sait identifier ces supporters, mais finalement, c'est comment on agit pour que la semaine d'après, il n'y ait plus ces personnes-là. C'est là où on voit que...
C'est les groupes de discussion en interne.
Exactement.
Et ils font des grandes sanctions aussi. Parce que
les sanctions, il y en a.
Non,
mais
on ne les applique pas. C'est ça, en fait. Pas toujours, je pense.
Il y a des points en moins. Il y a des matchs à huis clos.
Non, je parle pas de
Il y a des condamnations personnelles.
Oui, les clubs sont sanctionnés, mais les fameux supporters...
C'est ça, en fait.
Il y a eu des plans Leproux. Il y a des exemples. Il y a plein de jurisprudence aujourd'hui en Ligue 1. Donc les décisions sont prises. Après, si vous voulez, je sais pas, de la prison ferme ou de la condamnation.
Mais il y en a.
Je sais pas, j'irai pas jusque là. Mais je me dis que voilà, c'est plus une question d'atmosphère.
Exactement.
Que les supporters entre eux, notamment les franges ultra, discutent, et prennent des décisions, éliminent, comme un peu en Angleterre, éliminent, avec complicité justement de la LFP, éliminent les mauvaises herbes et ensuite reviennent dans les stades parce que l'objectif, c'est de supporter leur équipe. Et je pense que eux-mêmes, ça leur fait chier, excusez-moi du terme, de voir leur équipe perdre des points, éventuellement ne pas accéder à la Ligue des Champions pour un ou deux points qu'ils ont perdu à cause de débordements. Donc voilà, c'est un problème club au club, voilà, dans un premier temps. Au lieu de faire intervenir la ministre des Sports,
Alain Vicnèche, avant la fin de cette émission.
Le problème, en fait, c'est qu'en fait, la Ligue et même tout ce qui est ministère, etc., ils ont pas mal de lois, ils ont pas mal de choses qu'ils peuvent mettre en place, ils ont pas mal d'idées, sauf qu'ils veulent pas discuter tous ensemble, ça c'est déjà un premier problème. Et après, l'autre chose qui est importante, c'est que les clubs, ils sont assez sanctionnés justement, et pas les supporters directement. Parce que là, on a tout le matériel nécessaire, on a la nouvelle technologie, on a les vidéos de partout, on sait qui fait quoi dans un stade exactement. Donc qu'est-ce qu'on attend pour pas sanctionner les supporters directement, mettre des interdictions de stade d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans? Mais pas assez, je trouve. Moi, je trouve que c'est pas assez.
C'est ce qui s'est passé.
Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas assez, en fait.
Après, si je peux rebondir là-dessus, des fois, c'est à la limite de la psychiatrie. L'exhibitionniste, est-ce que c'est pas du domaine de la psychiatrie?
Mais pourquoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Donc, c'est des études au cas par cas. Bien sûr qu'il faut prendre des sanctions, mais je pense pas que ce type d'individu.
Faut pas le mettre de la prise en ferme, par exemple.
Non, pas du tout.
Mais ils sont identifiés. Il y en a par contre ceux qui font des saluts nazis, etc.
Ils savent, mais ça va pas l'aider.
Ceux qui font des saluts nazis, bien sûr qu'il faut les sanctionner lourdement. Là, quand on rentre dans sur du racisme, là, je pense qu'il faut prendre des décisions franches, notamment les cris de singe, les saluts nazis. Etc. Ça, faut prendre des décisions fermes parce que ça continue dans les stades et pas qu'en France.
En Europe aussi, sur le vieux continent.
Ça gangrène le foot européen. Et ça, je pense que c'est les décisions là, justement, la priorité. Ce serait ça. C'est justement le racisme dans les stades. Et après, je rentre sur le terrain. Faut pas mettre.
Toi aussi, tu rentres sur le terrain avec neige.
Non, pas du tout.
Au même niveau. Voilà.
Mais beaucoup de supporters qui rentrent sur le terrain. Là, on fait quoi à ce niveau-là? Parce que là, normalement, un terrain, c'est fait juste pour les joueurs et pour l'arbitre. Qu'est-ce qu'ils font, les supporters?
Tu peux pas l'ouvrir à tous les supporters, c'est plus un terrain ou sinon.
Si pour toi c'est un sanctuaire, pour d'autres c'est juste un défouloir. C'est juste on n'a pas la même vision du football. Tu vois ce que je veux dire?
Donc
je pense que là,
à la fin, pour ceux qui
c'est un sanctuaire comme toi, Vicnèche, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont un peu borderline et limite sur les bords, plus de sécurité. Plus de steward. Et les forces aussi de l'ordre.
Mais le problème, c'est qu'on dans un stade, les CRS, ils n'ont pas le droit de venir dans un stade et de faire ce qu'ils peuvent. Eux, c'est juste à l'extérieur des stades. Donc, au niveau de la sécurité, déjà, il y a un problème. Parce que les clubs travaillent avec des boîtes d'agence, des sécurités comme ça.
Ils ont le droit de venir dans les stades. Les supporters un peu houleux.
En fait, tu veux pas les voir.
Il
faut qu'ils arrivent au dernier recours.
Mais moi, je pense que c'est surtout eux qui devraient prendre ça en main, en fait. C'est surtout eux qui devraient faire ça.
Mourad, on va terminer avec Vivien.
Au début des années 2000, d'accord ? À l'époque de
Mourad, t'étais ultra.
À Ibury, c'était sympa.
Oui, c'était hyper sympa. Peut-être on était sur la fin du hooliganisme, mais il y avait de l'élan, il y avait des supporters qui portaient la voix, etc. J'ai fait l'Emirates il y a quelques années, au début des années 2010.
Alors,
c'est une bibliothèque. Plus de plaisir à regarder les clubs de première ligue quand je suis en Angleterre outre-Manche dans les pubs qu'au stade.
Interdites les boissons alcoolisées depuis 1985 pour lutter contre le hooliganisme, excusez-moi. Et justement, ça pourrait bientôt être autorisé et de retour en Angleterre. Et oui, parce que c'était la minute du football anglais avec Mourad.
Moi, je pense que c'est un faux débat aussi.
Ça va rien dire.
Oui,
il est bien. Qui soutiennent la Barclays League, enfin, sur ce côté alcool. Après, moi, sur le débat principal, moi, j'étais assez d'accord avec moi. Je pense que.
Alors.
Pour avancer, en fait, j'ai l'impression qu'on veut combattre trop de choses. C'est-à-dire que peut-être faudrait se focaliser sur sanctionner très fermement ceux qui profanent du racisme, de la violence, etc. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est un peu entre tout et rien et que finalement, on sanctionne pas vraiment.
Exactement.
Moi, je pense qu'il faudrait cibler nos
combats. À vouloir tout faire, on ne fait rien. Alors que si on travaillait en mode projet avec quelques thèmes, éventuellement à
quelques
éliminer.
Quelques templates.
Exactement. À éliminer notamment le racisme. Voilà. Et on avancerait projet par projet. Je pense qu'on gagnerait plus en efficacité. Pour revenir à l'alcool, je trouve que c'est un débat. Effectivement, ça va être, je pense, autorisé en première ligue à partir de la saison prochaine, c'est ça? Je pense que c'est un faux débat et c'est un débat d'hypocrite. En loge et dans les tribunes VIP,
il y en a.
Les présidents de club, les grands agents, les familles des joueurs, etc., ont accès au champagne, ont accès au petit four. Donc l'alcool est autorisé. Alors que les petites gens, justement, qui sont les fans les plus, on va dire, les plus fervents, eux, sont obligés de s'empester à l'extérieur des stades, avant le match et éventuellement après les stades. Et ils sont quand même sous alcool lorsqu'ils sont dans l'enceinte.
C'est
un faux débat. Je dis pas autorisons l'alcool parce que je ne suis personne pour le valider ou l'invalider. Mais je me dis que Aujourd'hui, chacun est responsable de son comportement et il y a assez de caméras, notamment en Angleterre, pour sanctionner ceux qui débordent. Voilà.
Oui.
Encore faudrait dire que ceux qui surveillent les caméras ne sont pas bourrés.
Ça, non, c'est encore autre chose.
Après, tu connais le proverbe, hein, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Après, c'est l'Angleterre, ça fait partie de leur culture. Mmh. Et en France aussi, hein, de plus en plus, on le voit. Enfin, notamment à l'entrée du Parc des Princes, il y a plusieurs bars où certains vont profiter, ils arrivent un peu sous
avant le match, c'est ça.
Au Parc des Princes, on le voit, il y a toujours cette petite élite qui a accès au champagne et au petit four. Donc, longeons tout le monde à la même enseigne et arrêtons cette hypocrisie.
On l'écoute.
Après, la stigmatisation tout le temps, en fait, dans le stade de foot, même partout, il y a toujours des clichés, des stigmates, et du coup, après, il faut s'adapter, il faut toujours améliorer les choses. Mais il faut plus d'égalité, même dans le stade de foot, en fait, comme j'ai dit précédemment, ça reste une société à part entière. Donc, il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne, et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui fait vibrer tout le monde. Faut pas faire de différence, parce que, de toute façon, qu'on soit pauvre, riche, etc., on a le droit d'aller voir un match de foot et se faire plaisir et aller supporter son équipe. On est là tous pour ça. Après, bourré ou pas, enfin, après, les gens, ils sont pas bêtes non plus. Non, s'ils sont là, c'est pas un match de foot. Ils sont pas là pour être bourrés et aller dormir ou je sais pas quoi. Donc là, non.
Certains, c'est, ils n'ont que le foot, justement, c'est pour ça. Vivre. Donc on ne peut pas les juger, en fait, sur ce qui se passe. Et c'est là que la responsabilité des joueurs intervient. Je pense notamment à des Dimitri Payet récemment ou à des Nabil Fekir à l'époque, à Geoffroy Guichard, qui avait tendu son maillot lorsqu'ils avaient gagné 5-0. Où là, tu provoques les supporters qui sont potentiellement alcoolisés et ça entraîne des débordements. Aux joueurs aussi, puisqu'ils sont professionnels, ils sont payés pour ça, justement à se contenir et à agir en tant que professionnel. Provoquer sur un dribble comme Paqueta.
J'ai un contre-exemple, moi.
Provoquer comme Nabil Fekir en sortant son maillot devant des supporters enragés qui prennent raclée sur raclée, saison après saison, à Geoffroy Guichard, bien sûr que tu auras un retour de flamme.
C'est sûr.
Et c'est là qu'on fait appel au professionnalisme des joueurs. Et je pense que là, Nabil Fekir, Dimitri Payet n'auraient pas dû, notamment Dimitri Payet, répondre en jetant une bouteille. Parce que là, il prend ses responsabilités et il doit assumer.
Après, le contre-exemple, c'est que si tu prends le foot US, par exemple, les joueurs, ils marquent un touchdown. C'est la coutume d'aller provoquer parfois une tribune adverse.
Non, mais
après, c'est notre culture. C'est gérer différemment, etc. Donc
le show, ça fait partie du sport aux US. Tu regardes ce qui se passe à la mi-temps, des matchs de NBA, en NFL. En France, à la mi-temps, les gens, ils vont acheter des hot dogs. Ils reviennent à leur place. Et encore, ils restent sur place. Ils appellent leur femme et ils attendent que la deuxième mi-temps commence. C'est pas du tout la même culture.
Ouais.
Donc provoquer les supporters, et ils ont moins de second degré aussi. Ouais, je pense aux supporters en France. Ils répondent tout de suite. Alors qu'en Angleterre, il y a la caméra qui pointe vers eux, ils font des danses,
il y a les frais qui se calment,
on n'est pas du tout dans la même, on n'est pas du tout dans le même esprit. Hein. Il y en a qui militent pour que Phil Collins soit maintenu au détriment de
Didier Snake
ou de musique un peu plus moderne. Donc on est très chauvin.
Il y a des vrais combats.
C'est pas du tout la même philosophie.
C'est bien ça.
Il y a des vrais combats en France, c'est bien.
Oui, il y a que des vrais combats, sauf les combats de.
Mais Vic Nash, il a la tribune VIP, c'est pour ça.
Ça dépend dans quel stade, hein, ça dépend.
Sauf les combats de Tony Yoka, voilà, je cherchais.
Remercie à Mourad. Avec Nash, et sans oublier aussi Vivien, voilà, de m'avoir accompagné durant une heure dans cette émission qui est Time Sport. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à notre réalisateur Yannis, sans oublier Alison. Bye bye et très bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.